Bonjour, et comme chaque jeudi, c'est Esprit de Justice. Il y a 13 ans, jour pour jour, le monde était sidéré par une attaque inédite d'Al-Qaïda contre le World Trade Center à Manhattan. Saisi d'effroi, tout d'abord, par une agression délibérée portée sur le sol américain, jusqu'ici indemne de toute attaque, mais aussi interloqué par un acte émanant d'un groupuscule inconnu, à vrai dire, d'une entité non étatique déterritorialisée, se réclamant de surcroît d'une religion qui défiait la première puissance politique du monde. Bref, le monde découvrait le terrorisme djihadiste qui, depuis cette date, non seulement n'a jamais quitté notre actualité, mais s'est profondément recomposé. Autrefois déterritorialisé, il dispose désormais d'une terre et d'une armée. Cette nouvelle forme de violence politique appelle, selon les termes utilisés hier par le président Obama, une autre forme d'intervention. Cette nouvelle forme de guerre ne se déroule pas en effet uniquement sur le théâtre des opérations militaires, mais elle a un lien direct avec ce qui se passe chez nous, notamment dans nos prisons. Le djihadisme dans nos prisons, tel sera le thème d'Esprit de Justice d'aujourd'hui. Le terrorisme djihadiste nous concerne donc de près, comme en témoigne la future loi durcissant notre dispositif antiterroriste sur laquelle, lors de Villepion, vous avez décidé d'ouvrir votre agenda aujourd'hui.
Oui, bonjour Antoine. Lundi, mardi et mercredi à l'Assemblée nationale, Bernard Cazeneuve va défendre un projet de loi conçu pour contrer les dérives djihadistes individuelles, type Mera ou Nemouche, qui sont des pratiques criminelles nouvelles. On notera ici la réactivité des pouvoirs publics. Alors disons d'abord qu'il s'agit de justice préventive. On connaissait l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, créée en 1996. Voici maintenant le délit d'entreprise terroriste individuelle, passible de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Seront convaincus de ce délit ceux qui se seront procurés ou auront fabriqué de quoi commettre un attentat qui aura été préparé par des repérages ou des formations au maniement des armes, au pilotage ou à la fabrication d'explosifs. Autre disposition, on pourra retirer son passeport ou sa carte d'identité à tout citoyen français qu'on suspectera de vouloir commettre un attentat terroriste. Le suspect étranger, lui, sera assigné à résidence. Sont explicitement visés ceux qui s'apprêtent à partir à l'étranger ou qui en reviennent. Ce texte inclut aussi des dispositions visant l'apologie du terrorisme et l'incitation au djihad sur Internet. Les fournisseurs d'accès auront 24 heures pour retirer les contenus pointés par l'autorité administrative, faute de quoi le site incriminé sera bloqué.
Mais si la lutte antiterroriste est une affaire globale, mondiale, chaque pays doit l'adapter en fonction de son propre contexte.
Oui, alors, premier exemple, avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui s'est réuni le 2 septembre au Kenya, Afrique très concernée par le terrorisme. On se souvient de l'attaque d'un centre commercial à Nairobi il y a tout juste un an, de l'enlèvement de 200 lycéennes au Nigeria en avril par Boko Haram, et on n'oublie pas les agissements d'ACMI au Mali et dans le Sahel. Alors pour l'heure, aucune décision n'est sortie de ce conseil, juste des vœux pieux. Le document final ressemble comme un frère à ceux de l'ONU. Par exemple, le conseil constate, déplore, réaffirme, réitère, souligne, demande, et c'est tout. Pour l'instant en tout cas. Autre exemple, avec la Chine, où on est apparemment plus efficace en matière de lutte contre le terrorisme, et ce n'est pas forcément mieux au regard de nos critères démocratiques, Pékin offre jusqu'à 1 million de yuan, c'est-à-dire 130 000 euros, pour des informations liées à des activités dites terroristes dans la province du Xinjiang. Ici, pas forcément de djihadisme, quoi qu'en disent les autorités chinoises, mais une répression féroce du séparatisme ouïghour, et les Ouïghours sont des musulmans, sont susceptibles d'être dénoncés les faits les plus graves comme les plus insignifiants, depuis les entraînements terroristes jusqu'à ceux qui se laissent seulement pousser la barbe. Et sachez que Pékin a versé 300 millions de yuan à ses informateurs rien qu'au mois d'août.
Et pour terminer, Laure, vous revenez sur deux affaires dont vous nous avez parlé la semaine dernière.
Oui, avec les jugements qu'on attendait avec curiosité. Le premier concerne 9 femmes qui auraient dégradé l'une des cloches de Notre-Dame de Paris lors d'une exhibition seins nus à l'intérieur de la cathédrale. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour leur imputer les dégradations en question. Elles sont donc relaxées, mais le parquet fait appel. Le second jugement concerne ce curé de Saint-Étienne qui héberge des dizaines de demandeurs d'asile congolais dans sa salle paroissiale. Lui aussi est relaxé. Les arguments du juge sont intéressants. Il s'appuie sur une décision du Conseil d'État de 2012 qui fait du droit à l'hébergement d'urgence une des libertés fondamentales. À ce titre, estime le magistrat, l'État est dans l'obligation de satisfaire la demande d'hébergement d'un sans-abri et à défaut, il doit déléguer ce devoir à toute autre personne physique ou morale en capacité de le faire. Pour le juge, le procès fait au père Riffard est donc totalement paradoxal. Ici aussi, le parquet fait appel et on comprend pourquoi.
Et un dernier mot, Laure, vous nous invitez à regarder la télévision lundi soir à 23h05 sur FR3.
Oui, France 3, pour voir un documentaire de Philippe Pichon sur le juge Renaud Van Ruymbeck, un homme plutôt rare dans les médias. Le titre, Renaud Van Ruymbeck, au nom de la loi. 50 minutes sur le parcours d'un juge d'instruction et ses rapports involontaires avec le pouvoir, ou plutôt les pouvoirs, de gauche et de droite. Ça commence en 1979 avec l'affaire du terrain de Ramatuel, acheté par Robert Boulin, et ça se termine par la récente affaire Clearstream, en passant par le financement du Parti Socialiste en 92 et celui du Parti Républicain en 94. Amusant et instructif de voir nos politiques s'étonner vertueusement, hier et aujourd'hui, que la justice les poursuive.
Merci Laure, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
France Culture, Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York.
Des attaques terroristes sur New York et Washington, des attaques terriblement meurtrières avec très certainement des milliers de victimes.
Terrorist attack on the World Trade Center, both towers.
C'est un scénario apocalyptique que les pires films d'horreur n'avaient sans doute même pas imaginé.
C'est une guerre d'un nouveau type qui s'est ouverte hier, des événements qui, disons-le, font peur à chacun de nous.
La guerre contre le terrorisme commence dans nos prisons par la lutte contre la radicalisation de certains détenus. Et pour mieux comprendre ce processus et pour mieux le combattre aussi, Esprit de Justice a réuni deux spécialistes. Tout d'abord, Farhad Khosrokhavar, qui est directeur d'études à l'EHESS et qui est un spécialiste mondial, on peut le dire, puisqu'il a écrit des ouvrages fondamentaux sur cette question. Je pense notamment à l'islam dans les prisons, Voix et regards. C'était édité aux éditions Ballant. Quand Al-Qaïda parle, témoignage derrière les barreaux, chez Grasset, et qui est sur le point de publier aux éditions de la Maison des Sciences Humaines, à MSH, un livre sur la radicalisation. Et pour en débattre avec lui, David Benichou, qui est vice-président de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, en charge du pôle antiterroriste. Et je précise d'ailleurs que Farhad Khosrokhavar, David Benichou et Philippe Migaud, un troisième auteur, vont eux-mêmes publier une étude sur ce djihad qui est beaucoup plus proche que nos auditeurs peut-être le pensent. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Farhad Khosrokhavar, vous avez travaillé cette question depuis de nombreuses années et je relisais votre livre sur l'islam dans les prisons quand Al-Qaïda parle. Quelle différence ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 10 ans ou 15 ans où vous avez commencé votre première enquête ?
Et j'ai fait une enquête 2000-2003 sur l'islam en prison avec un groupe de chercheurs britanniques. Et ensuite, 2011-2013, une autre enquête, si vous voulez, pour le ministère de la Justice.
Avant le 11 septembre, vous avez commencé avant le 11 septembre.
Avant le 11 septembre. J'étais à Loos, c'était à Lille, quand la chose s'est produite. C'est vraiment, on en discutait, mais personnellement, je n'arrivais pas à concevoir l'étendue, si vous voulez, du dégât. Parce qu'on était mal informés ce jour même. Alors, entre les deux dates, si vous voulez, il y a énormément de choses qui ont changé. Le modèle du djihadisme en prison, c'est-à-dire de forme de prosélytisme religieux allant jusqu'à la violence absolue contre les non-musulmans extrémistes, avait épousé un modèle, si vous voulez, qui était très proche du fondamentalisme. C'est-à-dire on laissait pousser la barbe, on tenait des propos extrêmement agressifs vis-à-vis des autres musulmans, vis-à-vis des non-croyants, vis-à-vis des surveillants, vis-à-vis de l'autorité carcérale, et on essayait d'avoir le maximum d'ouailles autour de soi. Il y avait quelque chose de surostentatoire, autant dans le fondamentalisme, si vous voulez, religieux, que dans le djihadisme en prison.
C'est ça. Et notamment contre les autres musulmans.
Ah oui,
première
beaucoup.
Première cible.
Mais oui, parce qu'eux, ils étaient, si vous voulez, les faux musulmans. En fait, les musulmans qui ne correspondent pas à leur modèle ne sont pas de vrais musulmans, ce sont des faux musulmans. Ils sont beaucoup plus dangereux que les chrétiens, les juifs ou les athées. Parce qu'eux, au moins, on sait très bien où, avec eux, on sait très bien où mettre la ligne de démarcation. Donc il y avait un modèle, si vous voulez, ostentatoire, surostentatoire de djihadisme en prison dans ma première enquête. Mais par contre, dans la deuxième enquête, je me rends bien compte que ce modèle qui existe toujours mais qui est marginalisé est en un sens dédoublé en un second modèle où ce qui prévaut, c'est la dissimulation. Le fait de ne pas montrer qu'on est radicalisé, de ne pas faire preuve de prosélytisme.
Apparent, du moins.
Apparent, c'est-à-dire que, en fait, on ne le montre pas. On essaie d'avoir seulement un ou deux, au maximum trois détenus qui vont sympathiser avec vous et qui vont rejoindre une sorte de, dirais-je, groupuscule extrêmement réduit. Donc, tout se passe en quelque sorte en sous-main. On ne veut pas que la chose se sache. Et alors, ce qu'on fait, c'est par exemple, pendant le ramadan, on ne se déclare pas, si vous voulez, à jeun. On ne prend pas le colis, si vous voulez, le repas de ramadan du soir que la plupart des prisons distribuent. On rase, si vous voulez, la barbe, la moustache, etc. On ne laisse absolument pas entrevoir. Et quand on est converti, il y en a, ils ne le montrent pas. C'est-à-dire que souvent, les surveillants ne le savent pas, faute de repères visibles. Oui. Donc, il y a comme une sorte d'introversion totale de ce phénomène avec une dissimulation qui se veut parfaite, ce qui fait que dans une très grande partie des prisons, les surveillants ou les personnes, si vous voulez, et qui sont censées superviser ces phénomènes-là, sont démunis.
Alors, on va revenir sur la caractérisation, sur les différents types. Mais vous, David Benichou, comme juge antiterroriste, pour simplifier, vous voyez des gens qui sont déclarés, qui sont radicalisés. Alors, bien sûr, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Il n'empêche qu'ils ont été souvent démasqués.
Alors, bien sûr, ils bénéficient de la présomption d'innocence et on ne les accuse pas d'avoir telles opinions. On suspecte qu'ils ont participé à des crimes ou à des délits. Je rejoins assez ce que dit Farhat sur un certain nombre de djihadistes qui sont dans la dissimulation. Et ce qu'il dit est d'une certaine manière très inquiétant, parce qu'à côté de ceux qui dissimulent, qui adaptent un profil assez bas en détention, on a toujours aujourd'hui des barbus qui font des prières collectives en prison. Donc à la fois, il y a ces profils de dissimulation, mais on a aussi toujours un prosélytisme ostentatoire. Et je dirais qu'il y a peut-être presque un phénomène générationnel, parce que certains vétérans, entre guillemets, d'Afghanistan adoptent justement ce profil bas, alors que d'autres, beaucoup plus jeunes, qui sont un peu dans ce qu'on peut appeler le djihad 2.0, ce qui se passe en ce moment avec la Syrie.
C'est-à-dire, pour nos auditeurs, le djihad 2.0.
Vous savez, ce sont ceux qui font des selfies avec des têtes, qui brandissent des kalachnikovs. On est dans cette ère de la mise en scène, de l'auto-mise en scène, de la glorification, du Facebook, etc. Donc ceux-là sont dans le spectacle en permanence. Et alors c'est assez drôle justement parce qu'ils adoptent des apparences différentes. Récemment, il y en a un que je vois assez régulièrement. Quand il se présente dans mon cabinet, il est habillé à l'occidental, assez sobre, les cheveux attachés, etc. Et à la faveur d'un contrôle, on a réussi à trouver un téléphone clandestin dans lequel il y avait des autoportraits de lui-même, puisque c'est la mode du selfie. Et alors là, on le voyait, mais c'était... Il y avait toute la tenue, la grande barbe, etc. Voilà.
Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a deux générations. Et puis, c'est aussi la société du spectacle contre l'organisation secrète. Une organisation secrète beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisée. Alors, pour que nos auditeurs puissent bien se situer, où placer les salafistes dans cette... Parce que c'est devenu un terme un peu générique, Farhad Khosrokavar, le salafisme. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment il se place dans cette...
C'est-à-dire le salafisme est un terme ambigu qui englobe deux catégories de gens, au moins, sinon trois ou quatre, et qui sont quelquefois aux antipodes les uns des autres pour ce qui est de l'action violente. En fait, ils partagent dans une très grande mesure ce qu'on pourrait appeler les notions hyper fondamentalistes de la foi. Et en cela, ils ne sont pas très éloignés des wahhabites, si vous voulez, en Arabie Saoudite, qui sont quand même l'allié de l'Occident. Tout le problème, c'est le passage à la violence, à l'acte. Et pour les wahhabites, si vous voulez, qui partagent encore une fois dans une très grande mesure et qui sont aussi les inspirateurs de ces salafistes, il ne faut pas passer à l'acte, au moins contre l'État islamique, par exemple de l'Arabie Saoudite et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, partagent son credo. Pour les salafistes djihadistes, qui sont la catégorie extrême, si vous voulez, des salafistes, l'Arabie Saoudite fait partie du camp des idolâtres.
C'est ça. Et un peu plus peut-être depuis hier avec leur offre de service.
Depuis assez longtemps, mais hier, si vous voulez, bon, ça a été quand même très explicite, mais avec Ben Laden, déjà, il y avait la rupture, parce que l'Arabie Saoudite est l'allié de l'Occident, et quand même coopère avec les États-Unis, etc. Donc, il y a ce versant de salafistes, si vous voulez, et en un sens en rupture avec les wahhabites pour ce qui est de l'action violente.
C'est ça.
Par contre, il y a les salafistes qu'on pourrait qualifier, qu'on appelle scientifiques ou chahiris ou peu importe, mais qui sont des fondamentalistes purs et durs et qui ne sont pas dans une action violente, du moins dans leur écrasante majorité. Et ceux-là, par exemple, en prison, on les voit, ils montent des prières collectives non autorisées. Et ils font preuve de prosélytisme ostentatoire.
Mais de prosélytisme religieux, pas violent.
Voilà, fondamentaliste religieux, mais pas violent. Oui. Et c'est ça, finalement, cette ambiguïté, si vous voulez, de la notion de salafisme qui couvre deux types d'attitudes qui sont aux antipodes l'une de l'autre.
Alors, puisqu'on est dans la typologie, je voudrais qu'on essaye de mieux comprendre et de mieux faire comprendre à nos auditeurs le panorama, les profils de ces djihadistes qui sont, encore une fois, un terme très générique. David Benichou, vous en voyez beaucoup. Alors, encore une fois, vous les voyez à un moment très particulier du parcours, hein, qui est lorsqu'ils ont un dossier judiciaire. Quelle typologie vous feriez de ces garçons qui sont peut-être pas que des garçons, il y a des femmes aussi d'ailleurs.
Oui, il y a des femmes. Alors, c'est une typologie tout à fait empirique, hein, mais on voit nettement certains profils se dégager. J'en dénombrerai quatre. Il y a tout d'abord la figure de l'individu perturbé, celui qui est parfois complètement dans la maladie mentale. On trouve des gens avec des diagnostics de schizophrénie. Et ceux-là, à vrai dire, font plutôt bien l'affaire en matière de djihad, parce qu'on les trouve souvent dans des rôles de petits chefs. Ils sont charismatiques, ils sont craints. Du fait de leur maladie, parfois, ils entendent vraiment des voix. Ils pensent sincèrement être inspirés par une mission divine. Et ils réussissent, malheureusement, à fédérer autour d'eux ce que j'appellerais... La deuxième catégorie, c'est les suiveurs. Alors les suiveurs, c'est qui ? C'est des jeunes qui sont plutôt qui ont plutôt une faible image d'eux-mêmes, qui sont en manque de confiance et qui, pour s'affirmer, ont besoin de suivre un petit chef. Alors bien sûr, ils ont le vernis de base, c'est-à-dire le minimum vital du salafisme, mais ça va généralement pas très loin. Et aujourd'hui, dans cette société du spectacle, il n'y a pas mieux que le terrorisme pour passer très rapidement de la case sombre inconnu à ennemi public numéro un. Et quand on est dans une société où la valeur maintenant ultime, ça devient juste la notoriété, on ne sait même plus pourquoi au fond, le terrorisme, c'est un moyen d'avoir de la notoriété. Alors, dans ces suiveurs, on retrouve aussi... ça me fait un peu penser aux travaux de Christopher Browning dans... Les hommes ordinaires, parce qu'au fond,
il y a beaucoup... 101e division, voilà, de Hambourg.
Il y en a qui se retrouvent pris ensuite dans des mécaniques dont ils n'ont pas le courage de sortir, tout simplement.
Oui, mais alors qui offre peut-être aussi la possibilité d'une action, d'une intervention, peut-être plus que les autres. Comment essayer de redresser une personnalité fragile, de l'empêcher de sombrer?
Ah oui, mais alors ça, c'est... Ça va être une...
Farhad Khosrokavar, vous parlez, vous, de cette personnalité fragile. Vous en avez rencontré dans vos entretiens que vous venez de terminer en prison.
D'ailleurs, la typologie de David Benichou recoupe la mienne sur ce plan. On est tout à fait d'accord pour reconnaître que les personnes fragiles qui ont des troubles mentaux, des psychopathes, quelquefois des schizophrènes...
Qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique. Et ça, c'était déjà dans le cas... Dans
ce tout le problème, étudié. C'est que les prisons sont devenues, si vous voulez, des asiles de fous. Il y a aux alentours d'un tiers de la population carcérale, pas seulement en France d'ailleurs, vraiment c'est en Occident. Aux États-Unis et dans les autres pays, sont vraiment des gens qui ont des troubles mentaux. Et là, ça fait dévier la prison de sa vocation première, qui est quand même d'héberger des gens qui ont agi contre la loi à bon escient.
Intentionnellement,
mais oui,
bien sûr.
Et donc, il y a cette espèce de perversion du rôle de la prison qui fait que des gens « normaux » entre guillemets côtoient des gens « anormaux » entre guillemets.
Alors c'est, oui, c'est ça,
et c'est ça, finalement, l'un des vrais problèmes, à mon avis, de l'institution carcérale en Europe pour les 10 années à venir.
C'est ça. Alors, ça, c'était la deuxième catégorie. On va revenir sur le prosélytisme. La troisième catégorie...
Alors, ce que disait Farhad, je voudrais juste rebondir un instant sur problème de la psychiatrie, enfin des profils psychiatriques en prison. Mais ça, c'est un vaste débat parce qu'on a des gens qui sont atteints de maladies psychiatriques. Mais pour autant, ils sont responsables pénalement. Ils savent très bien qu'ils ont une maladie psychiatrique. Ça ne les empêche pas de commettre des délits en étant tout à fait conscients et en tirant une grande jouissance de ce qu'ils commettent. Donc ça,
c'est un problème qui excède d'ailleurs celui du djihadisme.
Mais on n'a pas de solution à ça. Ça fait plusieurs siècles qu'on ne sait pas quoi faire des schizophrènes violents, par exemple.
Mais il n'empêche que la prison était un lieu de rééducation dont le levier était la volonté, l'intention de commettre un acte antisocial. Et là, on est finalement, l'action de la prison est prise de court au moins par deux motifs. C'est que, un, l'intention n'est plus une intention de commettre un acte antisocial, mais de commettre un acte qui, dans sa propre échelle de valeurs religieuses, est extrêmement positif. Et puis deuxièmement, des gens qui, à l'égard desquels, on a l'impression qu'il est difficile de parler d'une intention, d'une volonté clairement établie.
Alors, pour...
Troisième catégorie,
mais juste avant, un petit point, ces individus de la première catégorie qui sont fragiles psychiatriquement, et aussi les suiveurs, on trouve aussi très souvent une consommation de cannabis assez forte. Alors, je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre qui ont le cerveau grillé au cannabis. Et ça prépare un terreau très favorable à la prise de toutes sortes d'idées conspirationnistes, djihadistes, etc.
C'est-à-dire qui sont très affaiblis et dont la délinquance était liée au trafic de drogue.
Oui.
Oui, mais en même temps, il y en a beaucoup. Si vous voulez, en prison, le cannabis, je veux dire, le shit, est d'une consommation courante. En prison, mais bien sûr. La prison reflète aussi la société. L'institution carcérale n'a pas les moyens de l'empêcher, parce que ne serait-ce que par les parloirs. Il y a une législation européenne qui interdit la fouille intégrale, sauf dans des conditions exceptionnelles. Bref, tout cela fait qu'on est dans des situations où la consommation du shit fait partie de la quotidienneté la plus banale de pratiquement toutes les prisons de l'Europe.
C'est ça.
Et donc, il ne faut pas s'étonner que les gens puissent en consommer, en surconsommer. Ça coûte un peu plus cher qu'à l'extérieur, mais il y en a. Vous pouvez vraiment vous procurer sans problème. Et donc, la dimension psychopathologique est extrêmement importante, avec ce bémol que souvent, les experts ne sont pas nécessairement d'accord sur le degré de lucidité de ceux qui commettent un certain nombre d'actes. Vous prenez deux experts différents, ils peuvent avoir deux opinions totalement différentes.
Alors, troisième catégorie.
Alors, troisième catégorie, c'est celle que je nommerais du croyant engagé. C'est quelqu'un qui souvent a femme, enfant, travail, inséré socialement, parfois un très bon niveau social. Et cette personne, du jour au lendemain, il est prêt à emmener sa famille en Syrie, à tout abandonner pour vivre son idéal de djihad.
Et David Benichou, qui n'est pas délinquant au sens qui n'a pas cette psychopathologie qu'on connaît chez beaucoup de délinquants.
Ah oui, tout à fait. C'est quelqu'un Moi, j'ai vu des profils des gens qui avaient des métiers, y compris dans des services publics. Voilà, ça peut être monsieur tout le monde.
C'est ça. Et quatrième catégorie.
Quatrième catégorie, c'est une catégorie qui, malheureusement, est en voie d'augmentation. Moi, je le vois au travers d'un dossier particulier. C'est celle, la figure du converti. Alors, le converti, mais vraiment, je dirais, de toute origine. Hein. On a des gens agnostiques qui se convertissent à l'islam, des gens de confession juive qui se convertissent à l'islam. On a des chrétiens. Et alors, le problème du converti, c'est quoi ? C'est que c'est quelqu'un qui va être en dette de faire ses preuves auprès de ses nouveaux frères. Donc, il va surinvestir l'action. Et c'est souvent chez ces convertis qu'on va trouver un engagement le plus fort.
C'est ça.
Et juste, je voudrais revenir à une chose que j'ai oublié de vous dire, mais qui me paraît importante au sujet des suiveurs, ces profils de suiveurs. Une phrase qui me revient en tête d'un de ces individus quand je l'ai interrogé en lui demandant pourquoi est-ce qu'il était parti, etc. Lui, il était parti, et ça rejoint la catégorie des convertis. Lui, il était converti. Il est parti avec un musulman d'origine. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti, vous lui avez facilité le voyage, etc. En plus, c'était un mineur, l'autre. Et il a dit, je voulais être quelqu'un à ses yeux.
C'est ça. Il y a cette récurrent problème de la reconnaissance. Mmh. De la reconnaissance, et qu'on va retrouver. Mais pour continuer, je vous propose d'écouter la description de quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers temps.
Il aura été pendant quelques jours l'homme le plus recherché d'Europe, Mehdi Nemmouche, 29 ans, arrêté vendredi à Marseille et principal suspect de la tuerie du musée juif à Bruxelles.
C'est bien la mise en place d'un dispositif de surveillance des axes de communication européens qui a permis l'interpellation de cet individu.
L'arrestation donc de ce suspect, visiblement lié aux islamistes radicaux en Syrie, fait réapparaître le spectre des djihadistes français, apparu au grand jour avec l'affaire Mera il y a 2 ans.
Simplement, c'est absolument pas quelqu'un qui avait une pratique religieuse. Ça faisait pas partie ni de son éducation, ni de son profil, ni de sa personnalité.
Quand il est sorti de prison, on le voyait encore dans le quartier, mais seul, comme avant, toujours tout seul, pensif, distant.
Durant sa dernière détention, il s'était illustré par son prosélytisme extrémiste, fréquentant un groupe de détenus islamistes radicaux.
C'était pas du tout une personnalité manipulatrice, ou violente, ou agressive, ou quelqu'un qui était ancré dans la délinquance.
Le radicalisme religieux de Mehdi Nemmouche en détention avait été signalé par l'administration pénitentiaire au service de renseignement.
Alors, Farhad Khosrokhabar, Mehdi Nemmouche, un garçon seul qui a grandi et élevé en France, dans des familles d'accueil françaises, qui n'avait pas de pratique religieuse, qui n'était pas un violent, et tout d'un coup commet un passage à l'acte radical extrême, puisque c'est de l'assassinat direct et dans des conditions atroces. Alors, comment vous expliquez ? Vous comprenez ? Il vous est familier dans les profils que vous avez identifiés ?
Il est familier dans le sens que c'est comme ça que les choses se révèlent. Il y a tout un processus de maturation. Et ce processus de maturation s'effectue souvent en groupe fermé ou en relation avec l'Internet ou dans le silence de sa conscience. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important qu'il faudrait mentionner, c'est son passage à l'étranger. C'est fondamental. Si vous voulez, la plupart de ceux qui partent, les jeunes surtout, à l'étranger, en Syrie, ou quelques-uns peut-être au Mali, quelques-uns plus rarement au Yémen, ils partent pas avec un djihadisme, avec un sentiment djihadiste invétéré. Il y a une dimension qu'on pourrait qualifier d'humanitaire. Et en France, il y a une tradition humanitaire de jeunes gens qui étaient humanitaires et qui se sont transformés par le passage, si vous voulez, à ces pays étrangers, en djihadistes. Par exemple, le groupe de Roubaix. Il y en avait plusieurs éléments dans ce groupe de Roubaix qui étaient humanitaires. Au début, ils sont partis pour aider. Et ensuite, là-bas, ils se sont transformés en djihadistes invétérés. Et moi, je crois que l'élément fondamental, c'est moins la prison ou la société ou l'Internet qui joue un rôle, indéniablement. Mais c'est plutôt le passage à la Syrie, souvent via la Turquie ou en Irak maintenant de plus en plus, ceux qui passent par la Syrie. Bref, c'est le passage dans ces pays-là qui fait que ces jeunes-là sont endoctrinés. D'ailleurs, pour ce qui est de Jabhat al-Nusra, en Syrie, on dit que c'est des séances de 6 semaines d'endoctrinement religieux, ensuite de passage à l'acte, et par, à la différence de l'Afghanistan, où c'était quand même un théâtre de lutte, si vous voulez, de basse intensité, là-bas, c'est vraiment la tuerie. Et donc, ils apprennent sur le tas ce que c'est que d'être cruel, ce que c'est que de tuer les autres, ce que c'est que de sacrifier la vie des autres sans aucune forme de remords. Bref, là, ils font l'apprentissage et idéologique et, si vous voulez, d'action violente.
Alors, David Benichou, un rapport à la mort qui vous a frappé aussi, c'est-à-dire que ce sont des jeunes pour lesquels la crainte de la mort n'a pas du tout le même sens que pour la population générale, surtout pour la population d'un pays qui est en paix depuis de très nombreuses années.
Ça fait partie du credo djihadiste et fondamentaliste habituel, c'est-à-dire que, comme le disent certains chefs du Hamas, nous aimons plus la mort que vous aimez la vie. Les djihadistes ont pour avenir, s'ils font suffisamment de bonnes actions comme ils l'entendent, le paradis éternel, avec un certain nombre de gratifications, on peut l'imaginer, à caractère sexuel. On se demande d'ailleurs quelle est la place des femmes dans ce paradis. Puisque...
À propos des femmes, là, il y a des femmes. Vous avez des femmes mises en examen pour des opérations des terroristes, David Benichou.
Oui. Alors, je dirais qu'il y a deux types de femmes dans cette catégorie. Il y a celles qui sont, en quelque sorte, victimes des réseaux. Il faut être clair, ces femmes, elles servent d'objets sexuels aux djihadistes. On les marie très rapidement à certains d'entre eux. Et ça leur sert de détente et de soutien moral sur le terrain. Ensuite, elles sont renvoyées en France lorsqu'il s'agit d'accoucher ou lorsqu'elles sont un peu fatiguées. Et puis, on a aussi des femmes qui sont complètement dans le mouvement, qui galvanisent leur mari. Moi, j'en ai vu un qui avait renoncé à la frontière turco-syrienne parce qu'il fallait couper des têtes. Eh bien, en revenant en France, il s'est fait pourrir par sa femme. Qui lui disait c'était un musulman indigne, etc.
Donc un rôle qui peut être soit pour temporiser, soit au contraire pour accélérer ce processus de radicalisation, Farhad Khosrokhavar.
Oui, c'est-à-dire que les femmes djihadistes ont une psychologie qui fait que la distinction homme-femme, en un sens, se suraccentue, en un sens, s'estompe dans l'activisme. Elles ont vraiment ce côté paradoxal qui fait que, d'un côté, elles égalisent les hommes, elles deviennent vraiment égales des hommes dans le fait même de passer à l'acte violent. Et d'autre part, elles affirment, si vous voulez, ce néo-patriarcat islamique qui fait que, pour elles, la distinction homme-femme devient quelque chose de rassurant. C'est ça qui est finalement assez... paradoxal, mais qui se comprend dans cette période de post-féminisme en Occident, où on ne sait plus qui est femme, qui est homme, au sens de rôle social, même si les choses sont loin d'être aussi mêlées ou aussi embrouillées que ne le pensent ces gens-là. Mais peu importe. Pour eux, l'islam apporte un distinguo assez clair entre ce que fait un homme, ce que fait une femme. Et là, pour eux, c'est rassurant, autant pour les hommes que pour les femmes.
C'est ça. Et d'ailleurs, vous insistez beaucoup, Farhad Khosrokhavar, dans vos différents ouvrages sur, finalement, ce djihadisme est une coproduction, dites-vous, de l'Occident et de l'islam.
Énorme. Vous savez, les grands ténors idéologues du djihadisme, mis à part Mardisi, Abu Mansa Bassouri, Tartousi, etc., ont passé de longues années en Occident, en Europe. Et ils prennent énormément d'idées, si vous voulez, à l'extrême droite et à l'extrême gauche européenne. Et donc, en cela, ils le transforment, si vous voulez, dans un jargon islamique, en une sorte d'idée, mythe islamique des origines. Mais en réalité, dans l'islam, sous cette forme-là, ces idéologies n'ont jamais existé. C'est vraiment une innovation majeure de leur part, innovation perverse si vous voulez, mais innovation majeure parce que cette forme de djihad, c'est-à-dire de tuer, de faire subir la mort aux autres indistinctement, hommes, femmes, jusqu'aux animaux, etc., enfants, minorités religieuses, etc., ça n'a jamais existé sous cette forme-là. C'est vraiment une innovation majeure de leur part, encore une fois, une innovation qui est régressive, répressive, perverse, tout ce que vous voulez, mais qui, sous cette forme-là, procède d'une vision mortifère qui, dans une très grande mesure, est influencée par les idéologies extrémistes occidentales.
Et alors, d'où un conflit de génération que vous pointez, Farhad Khosrokhavar ?
Un conflit de génération, affirmation de soi, volonté d'être quelqu'un, volonté surostentatoire d'être quelqu'un, et en même temps, si vous voulez, la volonté de faire corps avec une sorte de oumma, de communauté musulmane totalement mythifiée, qui n'a jamais existé non plus. C'est pour ça que je l'appelle néo-oumma, parce que vraiment, c'est une oumma qui n'a aucune des caractéristiques traditionnelles de la oumma musulmane.
Alors, revenons, David Benichou, sur ce djihadisme 2.0, et vous avez déjà suggéré cette importance de la gloire médiatique, qui là aussi exaspère, pousse au cynisme, une valeur qui est de plus en plus répandue, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Il faut que chacun ait son quart d'heure de gloire médiatique, au moins une fois dans sa vie. Alors, il y a un excellent révélateur de cela, un triste révélateur de cela, qui est l'affaire Mera. On le voit bien dans les enquêtes que vous faites, Farhad Khosrokhavar, c'est une référence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentez, vous, à travers les interrogatoires que vous pratiquez, David Benichou, sur cette figure de Mera ?
Alors, en interrogatoire, on a parfois, très souvent, un discours un peu convenu, donc une condamnation... ça reste assez timide quand on a une condamnation des faits commis par Mera. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est toute l'enquête qui précède, lorsqu'on a des échanges pris sur le vif. Je peux vous dire que quand on va en perquisition, on trouve toujours au moins un document, une vidéo à la gloire de Mera. Dès l'automne 2012, Inspire, la revue d'Al-Qaïda, avait consacré un article à Mera, juste à côté d'un autre article qui indiquait quelles sont les qualités d'un assassin urbain. Donc, et Mera a ceci dans l'horreur des faits qu'il a commis. Il a brisé un tabou en s'en prenant à des enfants. Et puis, il faut le rappeler aussi qu'il s'en est pris à des militaires français de confession musulmane.
Oui. Alors, d'ailleurs, dans les gens que vous interrogez, Farhad Khosrokhavar, il y a une différence. Vous notez une différence. Il n'y a pas la même condamnation pour l'assassinat des enfants juifs que pour celui des militaires qui combattaient pour la France.
C'est-à-dire, il y en a, par exemple, en prison, il y en a plusieurs qui se sont exprimés à ce sujet. Une fois surmontée la réticence à notre égard comme étant peut-être d'éventuels agents des renseignements généraux, il disait qu'après tout, tuer des militaires qui luttent en Afghanistan contre des musulmans, à la limite, ça se justifie. Mais tuer des enfants, ça ne se justifie pas. Et Mera est passé outre à cette prohibition islamique de tuer des enfants. Même si c'est des enfants juifs, c'est des enfants. Et par conséquent, il n'avait pas le droit de le faire. Il y a une désapprobation à ce sujet. J'ai trouvé un seul détenu qui m'a tenu un discours totalement radicalisé, disant qu'il avait raison sur tous les fronts. Mais sinon, les autres mettaient toujours un bémol. C'est-à-dire, justification de la première dimension, tuer des militaires, après tout, musulmans, qui luttent contre leurs propres frères dans un pays musulman. Et ensuite, le côté enfant juif. Tu es un juif adulte qui peut aussi coopérer avec Israël, c'est aussi plus ou moins, si vous voulez, compris, même si ce n'est pas légitimé dans le même sens. Mais par contre, les enfants, il y avait, disons, une écrasante majorité des gens qui le condamnaient sans appel.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque que cet acte de Mera fasse sauter quelque chose, fasse sauter une sorte d'infranchissable, David Benichou ?
Moi, c'est ce que je pense. En fait, il a fait sauter un tabou en s'en prenant à des enfants. Et même si devant nous, je pense qu'il y a souvent ce discours assez convenu de dire qu'on condamne parce que c'est des enfants, mais il y en a aussi qui disent, là encore du bout de lèvres ou pas du tout du bout de lèvres, que comme il y a des enfants palestiniens qui meurent, ça justifie qu'on s'en prenne à des enfants juifs n'importe où dans le monde.
Alors je vous propose, on a parlé beaucoup des profils de djihadistes, mais notre émission porte aussi sur le rôle particulier et était très préoccupant de la prison. Je vous propose d'écouter l'interview de cette semaine, le reportage fait par Sophie Bobert sur le père Michel Viau, qui vient juste de terminer un long mandat d'aumônier de prison, d'aumônier catholique de prison. Alors, j'ai été nommé aumônier en 2004, jusque donc en 2014, ça fait 10 ans. L'évolution, bah oui, elle est certaine. D'abord, il y a de plus en plus de gens jeunes qui sont emprisonnés, des gens qui sont souvent, comme on dit, paumés, toujours eu d'ailleurs, quand ils parlent d'eux-mêmes et de leur passé, des problèmes avec leur famille, avec les parents. Il y a eu des déstabilisations sur le plan familial. Et qui donc, dans beaucoup de cas aussi, ont eu recours à la drogue. Ce qui montre aussi la déstabilisation. Alors, le rôle de l'aumônerie, c'est, il faut que ce soit demandé par le détenu qui, au moment où il entre en prison, sait qu'il a accès au culte. Et puis alors, il y a aussi les musulmans. C'est moi qui ai demandé un imam dès 2004, parce que figurez-vous que les détenus musulmans sont venus par deux fois vers moi, sous les, d'ailleurs, les cris un peu indignés de certains, « qu'est-ce que tu vas parler à un prêtre ?»
Des traîtres. Hein.
Ils étaient un peu jugés comme ça, mais c'était tout simplement pour me dire « voilà, vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez comprendre, nous on voudra avoir un imam et on ne veut pas nous en donner ». Et donc, j'ai donc insisté pour qu'ils aient un imam, parce qu'une des raisons qui faisait que, justement, il y avait cette demande, qui me venait d'ailleurs de la part d'un étudiant, qui était quand même un garçon cultivé, intelligent, bah, qui se rendait bien compte qu'il y avait là des espèces d'imams autoproclamés qui disaient n'importe quoi. Et que lui, il aurait souhaité pratiquer l'islam comme il le pratiquait en France. Voilà. Alors j'ai fait ma demande, mais évidemment, c'était un non. Et ce qui a, si vous voulez, ce qui a modifié la vision de l'administration, c'est quand les Américains, après avoir questionné un certain nombre de talibans à Guantanamo, se sont aperçus qu'il y avait des Français parmi eux. Et ils leur ont demandé évidemment comment est-ce qu'ils avaient atterri dans ces groupes. Et ils sont demandés, c'était la filière des prisons. Donc c'est la propagande en prison qui les avait amenés là. Alors donc finalement, nous avons obtenu un imam. Nous avons eu droit à des grandes photos dans la presse locale. Voilà, mais problème, voyez-vous, il était comorien, donc noir. Donc il y a une partie des Maghrébins...
Qui ne le reconnaissaient pas.
Parce qu'il était noir, exactement. Et que dans l'image de certains jeunes, le noir, c'est un esclave. Alors, il y a cette image, et puis alors il y a aussi ce fondamentalisme, je dirais, stupide. Pourquoi il est stupide? Parce que l'exigence de ces jeunes qui ne fréquentent absolument pas les mosquées avant d'aller en prison et qui tout d'un coup veulent devenir musulmans, plus musulmans que moi tu meurs, c'est l'exigence d'avoir toutes les prières en arabe, lecture du Coran en arabe et prêche du Coran en arabe. Or, ils ne connaissent pas l'arabe littéraire. Et c'est pour ça que mon imam, lui, il prêchait en français. Il faisait les prières en arabe, mais il prêchait en français, il faisait le Coran en français. Et bien, il y a une partie des gens qui ne venaient plus. Moi, ce que j'ai vu à Blois, c'est que dans un premier temps, avant, ils faisaient leurs prières dans leur cellule. Quand l'imam est arrivé, ils sont venus en petit groupe et puis il y a eu un effet aspirateur. Tout le monde est venu. Ah ben oui, ils étaient même le triple de l'aumônerie catholique, hein, au point de vue nombre. Hein. Nous être 20, 25 à la messe, ça faisait 70, 75, 80. Bon.
Et ils avaient une salle, ils pouvaient jouir d'une salle,
hein. Ben, bien sûr, ils utilisaient notre salle. J'ai même autorisé l'imam à retirer le crucifix, bien sûr. Mais bon, lui, il ne l'a pas fait, vous voyez. Mais il a retiré les santons de la crèche parce qu'évidemment, ça pouvait faire idole. Je pense que ça a dû déplaire à certaines de ses ouailles. Mais ensuite, alors, il a eu la moitié moins de monde. Et puis ensuite, il a eu beaucoup moins de monde. Et maintenant, je ne sais pas s'il vient régulièrement. Donc, cette division dont je vous ai parlé à l'extérieur, vous la retrouvez à l'intérieur, mais plus exacerbée encore, parce que c'est un milieu fermé qui sont tous ensemble.
Vous en avez vu beaucoup, des détenus se convertir à l'islam en prison?
Alors, moi, j'en ai vu très peu, mais ce que je sais, c'est que c'est ce qui est le plus important pour l'instant, c'est que des gens d'origine musulmane, mais non pratiquants à l'extérieur, entrant en prison, deviennent des musulmans radicaux et prêts à faire le djihad.
Pour combien de temps faut compter quoi? 6 mois, 1 an?
C'est beaucoup plus rapide. Quelques semaines. Quelques semaines. Mais on n'a pas idée, vous comprenez. Nous vivons dans une société qui, à force d'être matérialiste et de tout miser sur l'argent roi, a complètement perdu la notion de ce que sont les forces spirituelles, aussi bien bonnes que mauvaises, et que c'est extrêmement rapide.
Alors, qu'est-ce qui manque aux aumôniers classiques, si je puis dire? Une ferveur, un style, hein?
Quand vous appelez des aumôniers classiques musulmans, vous n'entendez pas là. Ben, écoutez, il faudrait déjà que le culte musulman soit mieux organisé qu'il ne l'est. Finalement, on a beaucoup de peine à organiser le culte musulman en prison, hein, pour dire les choses comme elles sont.
Alors, Farhad Khosrokavar, vous reconnaissez vos prisons et vos musulmans en prison avec cette ambiguïté qui traverse tous vos propos depuis le début de l'émission, qui est le rapport à l'arabité, qui est complètement différent.
C'est un rapport totalement mythologisé. Je veux dire, il y a ce qu'on appelle le culte du Coran. Mais l'écrasante majorité des détenus musulmans en prison le lisent en français. Ils ne peuvent pas le lire en arabe. C'est l'arabe coranique est un arabe difficile. Il faut connaître à fond la langue, ce qui n'est pas le cas de 99% des jeunes en prison. Alors, par contre, il y a chez les salafistes une volonté de se réapproprier, si vous voulez, les fondements du sacré islamique. Et là, ils se donnent à fond dans l'apprentissage de la langue arabe.
Et vous avez même vu un Français Français converti qui est devenu un expert dans la maîtrise de la langue arabe.
Ah oui, maîtrise. Et puis surtout, par exemple, en prison, j'avais un Italien qui était extrêmement... Enfin, d'origine italienne, français d'origine italienne, qui psalmodiait le Coran, qui avait appris le Coran, et les jeunes d'origine immigrée allaient le voir pour lui demander ce qui était prohibé, ce qui était autorisé dans l'islam. Et donc, ça le flattait aussi dans son amour propre. Lui, le franco-italien converti, qui se voit affluer vers lui, si vous voulez, beaucoup de jeunes. Et ça, c'est le salafisme. Ça, c'est la dimension fondamentaliste du salafisme quiétiste. Et là, ils sont en train de faire ce qui n'était pas le cas encore en France dans les 10 dernières années, à savoir constituer une sorte de tradition islamique avec des gens qui connaissent l'arabe et qui peuvent se référer au texte sacré. Et là, on le voit dans toutes les prisons, pratiquement, il y a quelques-uns d'origine franco-française, je veux dire vraiment, et qui commencent à maîtriser la langue arabe fosha, c'est-à-dire la langue du Coran, et qui comprennent le Coran et qui répandent des sourates. Par exemple, moi, j'en ai rencontré qui connaissaient par cœur plusieurs sourates du Coran et le citaient comme ça. Et ça émerveillait évidemment ces jeunes d'origine nord-africaine qui ne maîtrisent absolument pas le livre de Dieu et qui voyaient en eux des merveilles de la nature et une confirmation du bien fondé de leur croyance, puisque voilà un étranger, un Français, un Italien qui apprend l'arabe pour maîtriser la langue du prophète.
Et David Benichou, ce niveau de culture, vous ressentez la même chose que vient de dire Farhad Khosrokavar?
Tout à fait. Je vois certains de nos détenus qui, en entrant en prison, connaissent pas un mot d'arabe. Mm-hmm. Et en prison, ils ont du temps. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Première chose, ils commencent à prendre des cours d'arabe, ils s'intéressent au Coran. Alors, ça peut avoir des effets bénéfiques. Il y en a certains qui s'aperçoivent que la lecture qu'ils avaient était une lecture erronée. Et puis, au contraire, il y en a d'autres, ils vont apprendre l'arabe uniquement dans un objectif, c'est de devenir eux-mêmes des mini-savants auxquels les autres vont se référer et ensuite pouvoir faire du prosélytisme.
Mais David Benichou, vous êtes juge, je le rappelle, juge antiterroriste. Quel est leur rapport à la loi, nationale, la loi française?
Aucun rapport. Aucun rapport. Il n'y a que la loi de Dieu qui compte. Donc c'est simple, hein. Il y a deux mondes, il y a le leur et le nôtre.
Voilà. Et par exemple, vous dites qu'ils peuvent interrompre l'interrogatoire pour faire leur prière.
Moi, j'en ai qui font la prière en plein interrogatoire. Il y en a un autre qui m'écrit régulièrement en me demandant de me convertir à l'islam pour le salut de mon âme. Enfin, voilà, c'est...
Voilà. Farhad Khosrokavar. Le rapport à la loi, ce qui est surprenant, c'est que pour un esprit, on pourrait penser que la religion adoucit les mœurs et, comment dirais-je, rejoint la loi, valorise l'obéissance à la loi, l'obéissance au respect de l'autre, à la dignité humaine.
C'est-à-dire, pour les fondamentalistes, pour les musulmans normaux et qui forment l'écrasante majorité des cas, La loi est à respecter, la loi républicaine est à respecter. Mais alors, pour les fondamentalistes et les djihadistes, si vous voulez, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de Dieu. Et ce qu'ils appellent la loi des hommes doit se subordonner dans sa légitimité à la loi des dieux. En se substituant à la loi des dieux, finalement, on instaure le règne de l'idolâtrie. C'est-à-dire que suivre la loi des hommes, au mépris de la loi de Dieu, c'est finalement renoncer à la religion et devenir idolâtre.
C'est ça. Alors, est-ce qu'une solution ne serait pas de non seulement de multiplier l'encadrement par des imams sur de ces jeunes musulmans pour qu'ils aient une version, comment dirais-je, plus traditionnelle, plus sensée, plus exacte de ce qu'est l'islam? Je vous propose d'écouter ce que dit un imam, justement, en prison.
Mon rôle primordial, c'est de combler un vide, de ne pas laisser une place vacante. Et quand une place vacante, elle est laissée n'importe où, elle est prise par quelqu'un qui n'en est pas capable et qui n'en est pas apte. Le risque, il est réel, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient s'autoproclamer. C'est un risque. C'est un risque qui pourrait se produire parce que chaque individu a besoin d'une référence. Et dès qu'on voit quelqu'un qui a un petit peu de connaissances, on le prend pour référence.
Alors, Farhad Khosrokhabar, vous travaillez beaucoup sur la radicalisation. Est-ce que la tradition, la transmission n'est pas le meilleur antidote à la radicalisation? Et peut-être même, vous pourriez définir en quelques mots ce que c'est que la radicalisation.
La radicalisation, c'est le cumul, si vous voulez, d'une idéologie violente et d'une action violente. C'est-à-dire, vous pouvez, comme disait notre ami David, vous pouvez avoir une idéologie violente. Si vous ne passez pas à l'action violente, personne ne peut, dans une démocratie, vous poursuivre. Par contre, si vous jouxter une idéologie violente avec une action violente qui s'en inspire, évidemment, là, vous êtes dans le registre de la radicalisation, au sens où les sociologues la définissent.
C'est-à-dire que, est-ce que la tradition qui, par définition, est la transmission de la tradition, qui est le rôle de l'imam, qui est, comment dirais-je, qui est là pour encadrer l'action humaine, là, on a l'impression que c'est la religion marche absolument à contre-emploi.
Mais parce que, précisément, il y a eu une rupture en France et même dans une très grande partie de l'Europe, ces générations de jeunes d'origine musulmane, deuxième, troisième, quatrième génération, n'ont jamais eu de suivi religieux. Ils ont été, en un sens, en rupture avec la version traditionnelle de la religion. Les jeunes, actuellement, font leur apprentissage de l'islam radical, non pas dans les mosquées, mais sur Internet, ou avec d'autres groupes, d'autres personnes, si vous voulez, liées à ce phénomène, mais en dehors des mosquées pour l'écrasante majorité des cas. Par conséquent, il n'y a pas de tradition, si vous voulez, assumée et transmise de l'islam majoritaire dans ce pays. Et là, c'est aussi l'un des problèmes en prison. Il n'y a pas suffisamment d'imams. Moi, quand j'avais fait en 2004 le livre, il y avait moins d'une centaine d'imams, d'aumôniers musulmans. Et maintenant, il y a aux alentours de 160. Il faudrait 3-4 fois plus. Évidemment, tout ce problème n'est pas lié à un constat de chiffres. Il y a aussi d'énormes problèmes liés à ce qu'on pourrait appeler l'aumônerie musulmane en prison, leur dissension, la volonté, souvent la réticence d'aller en prison pour les imams parce qu'ils pensent que les musulmans en prison sont des mauvais musulmans. Bref, il y a énormément de questions, si vous voulez, qui sont en suspens. Mais le fait d'avoir davantage d'imams en prison peut être un obstacle érigé contre la radicalisation sur le long terme.
David Benichou.
Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Farhad sur la nécessité d'avoir des imams. Seulement, le problème, c'est qu'on ne peut pas les inventer. Et en ce domaine, on a un gros problème de ressources humaines. Parce qu'être imam, apparemment, ce n'est pas facile. Déjà, ce n'est pas facile en dehors, et c'est encore moins facile en prison, où il faut se heurter aux individus les plus radicaux. Et là, il s'agit d'être béton sur les textes. Parce que ces individus passent du matin au soir leur temps à étudier le Coran. Et sur la question de l'absence de tradition religieuse en tant que facteur qui augmenterait la radicalisation, je suis un petit peu plus mesuré, je m'interroge, parce que récemment j'ai vu dans Courrier International la cartographie des États qui envoyaient le plus de djihadistes en Syrie. Et je voyais que les principaux, c'est l'Arabie Saoudite, la Tunisie, l'Algérie et la France est pas très loin derrière. Mais que je sache, en Arabie Saoudite, en Tunisie, en Algérie, pays à confession musulmane majoritaire, on a une tradition religieuse. Pour autant, on a quand même des forts quotas.
C'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord l'Algérie ça a eu si vous voulez ce traumatisme de la guerre civile et puis le fait que ce sont les militaires qui sont au pouvoir, c'est pas les religieux. En Arabie Saoudite c'est cette concomitance entre ce qu'on pourrait appeler les wahhabites et la famille de Saoud. Et là ils sont dans une sorte de, je veux dire, d'entre-deux avec une société qui a du mal à s'y retrouver. Alors, avec des traditions tribales qui sont remises en cause, avec 8000 princes qui reçoivent de l'argent de l'État, et une classe moyenne qui est de plus en plus démunie et qui pense que tout cela... Bref, les questions sont... Mais qu'il y ait une rupture de tradition... D'ailleurs, la France n'est pas uniquement... L'Allemagne a plusieurs centaines, l'Angleterre a plusieurs centaines. C'est la Belgique qui a finalement le nombre le plus élevé de gens par rapport à la population. Par rapport à la population, c'est les derniers. Je veux dire, ces phénomènes-là sont trop complexes, mais le fait est qu'en France, la plupart des jeunes qui deviennent des djihadistes n'ont aucune notion de l'islam.
Alors,
ils réinventent.
Qu'est-ce que là, cette émission approche de sa fin. On a essayé de comprendre un phénomène éminemment complexe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait déradicaliser ? Ça devrait être le sujet d'une émission en soi. Mais les pistes de réflexion, au moins des pistes de réflexion, David Benichou. Des programmes de déradicalisation.
Alors, je sais qu'il y en a eu à l'étranger.
En Angleterre, notamment.
En Angleterre, et puis je crois aussi au Pakistan, en Afghanistan. Alors le problème, c'est que ça coûte très cher. Et dès qu'on arrête... je sais qu'il y en a aussi en Arabie Saoudite.
Dans les pays musulmans de tradition, il y a des programmes de déradicalisation.
Tout à fait, en Algérie, en Arabie Saoudite.
Et après, ça pose plein de problèmes de principe et de mise en œuvre. Parce que ça veut dire que, déjà, il y a un problème évident, c'est celui de la ressource publique. C'est déjà difficile de sortir de la délinquance un criminel ordinaire.
Oui, oui.
Alors, un terroriste, le sortir du djihadisme, je ne sais pas si on
prend
bien la mesure.
C'est multiplié par deux.
Voilà, c'est multiplié par deux, surtout avec un individu qui, s'il est déjà bien radicalisé, on peut faire tout ce qu'on veut, lui trouver un boulot, une maison. Il a déjà ça, de toute façon. Il faut sortir de l'idée que c'est des classes défavorisées. C'est des gens qui, la plupart que j'ai, moi, ils ont du travail, ils ont une famille. Donc, je ne sais pas sur quelle piste on
va travailler. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être construire une nouvelle catégorie qui ne serait ni celle du criminel classique, ordinaire, ni celle du combattant classique, celui qu'on a sur de l'ISIS, ce qu'on a sur le terrain, mais qui serait cette figure, justement, du militant violent, dissimulé.
Oui.
Le problème essentiel est que, si vous voulez, si on judiciarise exclusivement le problème, qu'est-ce qu'on va faire ? Ces jeunes qui vont venir, il va y avoir plusieurs centaines en Europe, on va les mettre en prison pendant quelques années.
Et ça va augmenter finalement.
Mais quand ils sortiront, ils seront encore jeunes. Ils seront dans leur trentaine. Ils auront 30 ans devant eux. Il faut vraiment... Il y a des expériences qui sont tentées en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis, en Norvège, mais pour d'autres catégories que les musulmans, les néo-nazis, par exemple. Les résultats ne sont pas non plus à 100%, si vous voulez, de succès. Mais c'est une tentative pour mettre, par exemple, côte à côte des imams, des psychologues, des psychiatres, des gens du ministère de l'Intérieur, des policiers, etc., pour les encadrer pendant une certaine période au moins. Parce que la solution qui consiste à les mettre en prison ne changera pas fondamentalement la donne.
Alors, c'est la dernière question que je vous pose, David Benichou. Comment vous, qui êtes juge, et donc qui avez comme arme la loi et aussi la répression de la prison, comment vous évaluez cela ?
Je rejoins là encore ce que dit Farad. Malheureusement, la justice, elle a quoi comme pouvoir ? Simplement de mettre les gens en prison. La prison, si c'est juste une privation de liberté dans les circonstances qu'on connaît, ça va être une cocotte minute.
Oui. Voilà. On terminera sur ce constat un peu terrible, mais le temps est là. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Anne Kobilac et à la technique Pierrick Monsigny, pardon. Je rappelle, vous pouvez réécouter cette émission pendant 3 ans, la télécharger pendant 1 an. La semaine prochaine, on s'intéressera aux crimes passionnels. Mais il est pour l'heure bientôt 16h, l'heure de retrouver les nouvelles vagues de Marie Richeux. À la semaine prochaine.